autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver sur Mars, très exactement sur le cratère Jezero, où a atterri le 18 février 2021 le rover Perseverance de la NASA, un exploit scientifique, technologique et humain sidérant que nous avions partagé quelques jours à peine après cet atterrissage, cet amarcissage réussi avec le planétologue Sylvestre Maurice, le responsable scientifique de Supercam, les yeux et les oreilles de Perseverance sur Mars. Sylvestre Maurice qui, depuis son laboratoire de Toulouse, tout en restant en liaison permanente avec la NASA, nous avait accordé une heure de son temps terrien le 22 février dernier, en compagnie de l'astrochimiste Caroline Frayssinet, toujours en quête de traces de vie extraterrestre. Cette exobiologiste collabore aux missions martiennes en analysant les données envoyées par les sondes spatiales et en concevant des instruments pour le faire. Vertigineux. Nous vous invitons donc, chers amis auditeurs, à réécouter cette émission spatiale et spéciale autour de la question « Pourquoi et comment rechercher des traces de vie passée sur Mars ?» Bienvenue pour revivre 7 minutes de suspense intersidéral entre Mars et la Terre.
Skycam maneuver has started. About 20 meters off the surface.
We're getting signals from MRO.
Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars.
21h55, joie, soulagement à la NASA. La première image vient d'apparaître sur les écrans. Il fait jour sur Mars, l'horizon est clair et au premier plan, l'ombre du rover Perseverance.
Touchdown confirmed. So, Skygrain hat funktioniert. Die Sonde ist tatsächlich auf dem Mars. Zum fünften Mal haben es die USA nacheinander geschafft, einen Rover perfekt auf dem Mars zu landen.
Hemos llegado. Perseverance llegó.
Succès interplanétaire intersidéral pour cet atterrissage de tous les dangers sur Mars jeudi soir. Bonjour Caroline Frayssinet.
Bonjour.
Merci d'être en direct en studio avec nous sur Terre, ici même. Bonjour Sylvestre Maurice.
Oui, bonjour.
Merci d'être en ligne, en direct avec nous depuis l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie à Toulouse, où vous dirigez l'instrument Supercam, les yeux et les oreilles de Perseverance sur Mars. Alors j'imagine que ces 7 minutes, voire plus, de suspense absolu ont dû être les plus longues de votre vie d'astrophysicien et de planétologue, d'autant que vous avez tout commenté en direct pour notre président Emmanuel Macron et sa femme Brigitte Macron.
Eh oui. Et ils nous ont fait l'honneur de venir voir depuis le CNES en direct cet événement, avec d'ailleurs les ministres, monsieur Le Maire et madame Vidal. Donc c'est un grand moment à la fois un peu de politique, parce que c'est le retour ou l'implication de nos tutelles les plus hautes. Mm-hmm. Et puis pour nous, un événement que j'ai dû vivre, que je devais vivre de l'intérieur aussi. C'est compliqué,
ouais.
Hein, parce que ça fait 8 ans qu'on s'y prépare. Comment le vivre avec plein d'émotions et en même temps le partager avec ses personnalités. On a essayé de faire ça avec le CNES, au CNES.
Et oui,
j'ai l'impression que notre président a apprécié ce petit moment d'émotion.
Mais Sylvestre Maurice, comment vous avez fait vous et qu'est-ce que vous avez ressenti? Parce qu'on se dit qu'effectivement, ça fait des années que vous travaillez là-dessus. Il y a quand même eu, on parle de 7 minutes pour l'atterrissage, mais un bon moment de suspense, puisqu'à un moment, il n'y a plus de liaison. Enfin, il faut attendre pendant 10 minutes, je crois, le temps que ça arrive, que ça arrive sur Terre. Comment vous avez vécu ça? Donc, à la fois, vous ne pouvez pas être avec vos équipes, ça fait des années que vous travaillez là-dessus, tout se joue pendant ces quelques minutes, et en même temps, il faut que vous commentiez tout ça en direct au président de la République.
Oui, c'est compliqué. Alors, le point le plus important que vous dites, c'est de ne pas être avec les équipes. Effectivement, c'était une grande décision pour moi. De toute façon, il n'y avait pas d'événement social. La crise sanitaire fait qu'on n'a pas les milliers de personnes qu'on aurait voulu avoir avec les familles, etc. Tous ceux qui ont travaillé, ce n'était pas possible. Donc, chacun vivait à sa façon, les uns sur une chaîne de médias virtuels, etc. Donc il y avait plein de façons. Et moi, vous savez, quand le président nous dit, j'ai envie de voir ça avec vous, voilà, j'y vais. C'est mon rôle. Donc il fallait le faire. Et ça n'a pas empêché l'émotion. Et c'était plutôt pour lui que c'était gênant, parce que je parlais avec la voix qui chevrotait assez largement.
Et bien sûr.
Alors c'était 7 minutes. Alors le décalage, on oublie le décalage. On était à 11 minutes et 20 secondes, parce qu'il est tout le temps, que ça soit depuis au moment où il dit. Le véhicule nous dit « j'arrive dans l'atmosphère », En fait, il est déjà posé, mais nous, on vit au moment où on reçoit des informations. Et au moment où on reçoit les informations, ben, on a une chronologie très précise qui va nous faire passer de 21 000 km/h à 0 km/h à la surface, en 7 minutes, 4 minutes de bouclier thermique, 2 minutes de parachute, 1 minute de rétrofusée. Donc, on, voilà. En fait, je vais dire, ça passe assez vite parce que vous commentez, vous voyez les événements arriver, on a envie de se réjouir pour chacun d'eux. Mais vous savez, le spatial a quelque chose d'étonnant. On me dit souvent, quelle est la partie la plus difficile? Ben, c'est la dernière parce que ça suppose que toutes les autres d'avant aient marché.
Bien sûr.
Et donc, c'est pas parce que vous vivez un événement en disant, tiens, on a ouvert le parachute, que vous sautez de joie. Vous dites, non, bon, une bonne étape, voyons la prochaine. Tiens, on a ouvert les rétrofusées sont mises en route. Et donc, chaque étape est nous rapproche du but. Mais on ne se réjouit qu'à la surface. Et encore, maintenant qu'on est à la surface, tout le monde dit bah, « Attendez, il faut voir que le véhicule n'a pas trop souffert. » Et donc, on est en train de mettre en marche tous nos instruments. Et donc, l'émotion, elle est continue. Elle est, voilà, c'est pas facile. Hein.
Et puis, il faut tenir, hein, parce que je crois que vous n'avez pas beaucoup dormi, ou vous vous êtes couché très, on va dire très tôt ce matin, ou très tard cette nuit. Vous ne dormez pas beaucoup. Il faut tenir aussi, parce que comme vous dites, là maintenant, il faut vérifier que les instruments marchent, que tout fonctionne, c'est ça?
Oui, alors ça va être sur la durée. Maintenant, on attaque un marathon. On est un peu en sprint au début, parce que on a envie tous de regarder ce qui se passe, d'être à l'affût de toutes les petites nouvelles. Et puis avec le temps, il va falloir qu'on se discipline, qu'on prenne des tours de garde et de rôle en disant c'est toi qui vas, puis après c'est moi, et puis etc. Donc on l'a déjà fait sur Curiosity lorsqu'on s'est posé en 2012. C'était un petit peu plus facile parce qu'on était tous ensemble à la NASA, au JPL en Californie, donc le partage d'informations est beaucoup plus efficace. Là, c'est un peu difficile. Honnêtement, le Covid ne nous aide pas beaucoup, mais évidemment comme pour tout le monde. Mais on gère et donc il va falloir qu'on apprenne sur la durée à fonctionner au moins pour 3 mois en heure martienne. Voilà, là on est en heure de Mars.
Alors quelle heure est-il donc, sur Mars actuellement?
Attendez, je regarde ma montre parce que j'ai deux montres. Et donc sur ma montre martienne, il est 7h03 du matin, là où est posé en ce moment dans le cratère G0 Persévérance.
Caroline Frayssinet, bonjour à vous qui êtes avec nous en studio. Alors, il est peut-être 7h10 sur Mars, il est 15h17 à Paris et 14h17 en temps universel. Alors, vous êtes astrochimiste, exobiologiste, hein, les deux mots disent la même chose, hein, sont synonymes. Chercheur au CNRS en sciences planétaires, au laboratoire LATMOS, atmosphère, milieu et observation spatiale. Vous avez collaboré, vous continuez de le faire à presque tout, bien que vous soyez très jeune, hein, à presque toutes les missions martiennes. Vous avez collaboré donc pour sur Curiosity, hein, le prédécesseur de Persévérance. Vous êtes aussi sur les starting blocks pour ExoMars, hein, de l'Agence spatiale européenne, et j'en passe. Alors, comment avez-vous vécu cet atterrissage-là de Persévérance?
Donc, moi, pour l'atterrissage, j'étais à la Cité de l'Espace, donc comme disait...
À Toulouse.
Et comme disait Sylvestre, il n'y avait pas de grand événement avec les équipes, les familles, comme on aurait l'habitude et comme on a eu l'habitude pour Curiosity. Mais il y a eu un petit événement qui a été organisé avec des journalistes et les équipes de Supercam et d'autres instruments. Et donc, il y avait des événements presse. Moi, j'étais en direct sur Skype avec le Twitch, Facebook de Ciel et Espace.
Et de notre confrère Philippe Hénarejos sur place. Est-ce que vous avez ressenti de l'émotion? Vous collaborez, hein, puisque vous êtes sur la recherche de vie. Vous collaborez avec toutes ces missions. Vous connaissez... Évidemment, Sylvestre Maurice et tous ceux qui travaillent sur Supercam, de l'émotion, de la peur
Toujours de l'émotion. La peur, elle est quand même assez... même si elle est présente, elle est relativement limitée parce que l'atterrissage, il est tellement prévu à la seconde près, au mètre près, qu'on a confiance dans les équipes ingénieurs qui ont effectué cet atterrissage, d'autant plus qu'ils ont eu l'expérience de Curiosity en 2012. Et c'est vrai que moi, je l'ai vécu comme un flashback de Curiosity. Donc, c'était l'émotion de Curiosity qui revenait à la surface. Et donc, lier le passé de Curiosity avec le futur de Persévérance, c'est assez exceptionnel.
C'est ça, là, c'est vraiment un lien et c'est vraiment une suite. Et c'est vraiment, du coup, pour développer encore plus, pour rechercher effectivement... c'est pas un hasard si Persévérance est posée sur le cratère G0, parce qu'il y a un lac en dessous, un lac souterrain, c'est ça, donc pour rechercher des traces de vie passée possibles.
Donc le cratère G0 n'a effectivement pas été choisi au hasard. Il y a eu des années de débats pour choisir le meilleur site d'atterrissage. Et donc au départ, on a des dizaines de sites proposés. Au fur et à mesure, on va réduire en fonction des ambitions scientifiques de la mission. Donc là, en l'occurrence, rechercher des potentielles traces d'une vie passée. Le cratère G0 a été choisi puisque dans le passé, il y a plusieurs milliards d'années, il aurait été un lac d'eau liquide qui aurait été présent à la surface avec des rivières, un delta. Donc ces conditions dans le passé auraient été favorables à l'émergence d'une forme de vie, si émergence de forme de vie il y a eu.
Et c'est effectivement Persévérance et notamment Supercam qui va nous donner des réponses. Il va falloir attendre encore avant le retour des échantillons. Mais s'il reste au Maurice, Caroline Frayssinet parlait à l'instant de Curiosity, sur lequel il y avait ChemCam, première mouture de cette Supercam. Décrivez-nous, Sylvestre Maurice, cet engin, donc cet instrument extraordinaire, Supercam, embarqué sur Persévérance.
Oui, alors, quand on a vu, et Caroline a très bien dit, les objectifs de la mission, ce n'est pas les mêmes que Curiosity. Curiosity, c'était l'habitabilité. Et avec Caroline, on opère ensemble à la fois l'instrument CamCam, l'instrument SAM, depuis des années. On est sur cette thématique qui avait besoin de chimie très forte. Ça, c'est Curiosity. Quand on a vu arriver une nouvelle mission, Persévérance, on a vu que les objectifs scientifiques avaient glissé un peu plus loin que simplement l'habitabilité, mais en allant vers les traces d'une vie passée, comme vient de le dire Caroline. Et il nous fallait d'autres techniques. Donc, on a choisi de reproposer ChemCam, qu'on avait déjà, mais de lui ajouter de nouvelles fonctionnalités. Là où il y avait deux fonctionnalités sur ChemCam, on en a maintenant cinq sur SuperCam.
Qui permettent, quand on dit les yeux de SuperCam, c'est de mesurer, de photographier, de filmer, de mesurer dans les différentes longueurs d'onde.
C'est très technique, un condensé de technologies, des techniques qu'on trouve dans le laboratoire. Une première technique d'analyse de la chimie atomique, c'est quoi les atomes? De quoi est fait la roche, par exemple en titane, en fer, en oxygène ou bien même en lithium, barium, voilà. Donc des éléments, et ça on le faisait déjà sur Curiosity, donc on le refait. Avec l'originalité de notre instrument, c'est toujours de le faire à distance. On a des lasers et on peut tirer au laser entre 2 mètres, 7 mètres. Ah, ouais. On l'a refait, mais cette fois-ci, on a mis deux nouvelles techniques qu'on appelle le Raman, l'infrarouge, des techniques soit avec un laser, soit avec la lumière réfléchie du soleil, qui nous donnent non plus simplement les atomes, mais comment les atomes sont liés entre eux, ce qu'on appelle les molécules, ou bien comment même les molécules sont organisée entre elles, la structure moléculaire. Eh bien, ça, ce sont des techniques qu'on appelle de minéralogie et qui sont indicatrices de phases qui ont vu de l'eau et qui peuvent potentiellement avoir préservé des traces de vie, ou même indicatrices de chimie organique. Donc, deux techniques minéralogiques en plus de la technique atomique. Ça fait trois techniques spectroscopiques, c'est beaucoup pour un instrument. On a aussi mis une caméra, parce que comme on tire au laser, on aime bien savoir où on tire au laser, de façon très précise. On a eu la même caméra essentiellement qu'on avait sur Curiosity, simplement on lui a rajouté un peu de couleur, on a un peu redéfini deux, trois choses. Et puis avec ces quatre techniques, on aurait pu penser que ça suffit. Et puis on a voulu d'ailleurs assez tardivement aller un petit peu plus loin encore, en mettant un micro. On n'a jamais eu de micro
et
scientifique à la surface de Mars. Et donc on va écouter d'abord nos lasers tirés, parce que lorsque en particulier un de nos lasers touche le sol, il va créer un plasma très chaud à 8000 degrés qui s'étend plus vite que le son. Ça fait un petit clac. Et en écoutant ce clac, on peut remonter à la dureté des roches. Donc, on avait un son qu'on l'a créé. Eh bien, on a mis un micro pour l'écouter et faire de la science avec. Donc, c'est cinq techniques qui sont rassemblées en un seul instrument assez gros. Il fait plus de 10 kilos, une partie en haut du mât. La partie française, une partie dans le corps du rover, la partie américaine qui a été développée principalement par nos collègues du Los Alamos National Lab aux États-Unis, et puis une troisième partie des cibles de calibration, c'est-à-dire des roches qu'on connaît très bien, certaines qu'on a reconstruites, qu'on a fait un peu de chimie, et sur lesquelles on va tirer pour avoir des signaux de référence. Et elles ont été faites entre la France et l'Espagne.
Super Cam, vous l'avez dit, c'est donc les yeux et les oreilles de Persévérance sur Mars. Je propose de découvrir tout de suite justement cette partie sonore, ces oreilles de Persévérance qui nous intéressent tant, nous, à la radio, dans cet extrait de l'excellent film d'animation vidéo du CNRS que nous vous proposons d'ailleurs, chers amis auditeurs et internautes, de découvrir sur notre page et tout de suite sur nos ondes. Super Cam, les yeux et les oreilles de Persévérance sur Mars.
SuperCam réunit 5 techniques de mesure en un seul instrument. Une véritable prouesse technologique qui permet de caractériser l'environnement géologique et chimique des échantillons qui seront retournés sur Terre. Le microphone scientifique embarqué sur SuperCam capte les sons émis par l'impact du laser en mode LIBS afin d'analyser les propriétés mécaniques des roches. Il étudiera aussi le bruit du vent et donnera des indications sur la météorologie de la planète rouge.
Sylvestre Maurice, est-ce qu'on sait déjà comment sonne le bruit du vent sur Mars? C'est pas de la poésie, hein, c'est... vous allez essayer de l'enregistrer?
Non, c'est un vrai sujet.
C'est un vrai sujet.
Ouais, oui, c'est un vrai sujet. C'est pas que de la poésie, même si on essaie de l'imaginer. Et en fait, on ne sait pas encore. Très honnêtement, les données devraient arriver d'ici quelques jours du premier son du vent martien. On est un peu, voilà, on ne sait pas à quoi ça ressemble. On a une idée, hein. On a fait plein de calculs. On sait que la vitesse du son va moins vite que sur Terre. Elle fait à peu près 30% moins rapide. On sait que l'atmosphère est très ténue, l'atmosphère de Mars, une atmosphère de CO2. Et on va, donc, elle propage très mal les sons. Donc, les sons vont être très atténués, très, très faibles et en plus très, très graves. Elle propage très mal les sons aigus. Voilà. On a quelques indications, mais on est très impatient d'avoir ces premiers vents.
Qu'est-ce que vous attendez, Caroline Frayssinet, en tant qu'astrochimiste? Est-ce que des sons, les sons de Mars vous intéressent aussi?
Alors, au niveau de l'astrochimie, les sons vont être un peu moins informatifs, même si, comme le disait Sylvestre, on va pouvoir analyser la dureté de la roche. Et donc, selon la dureté de la roche, on peut imaginer que la composition va être différente et donc elle va plus ou moins préserver des molécules qui auraient pu se trouver à l'intérieur. Donc au niveau du son, c'est quand même plus pour la physique de Mars que pour la chimie de Mars qu'on va avoir des intérêts. Et c'est également un grand défi technologique. Il faut voir ça. Il n'y a pas que des ambitions scientifiques sur Persévérance. C'est aussi des ambitions technologiques avec des grandes premières qui vont être faites, et notamment avec ce micro.
Et vous participez d'ailleurs tous les deux aussi à la réflexion et à la conception d'instruments pareils. C'est-à-dire que ce n'est pas des instruments qu'on vous donne et tiens, on va aller les mettre sur Mars. Vous les concevez totalement en fonction de ce que vous voulez faire, recueillir, comprendre, entendre, voir, percevoir et collecter.
Tout à fait. Le fonctionnement finalement d'une mission, c'est une agence spatiale qui va dire on envoie une mission sur telle planète avec tel but. Et il va y avoir un appel d'offres qui va être ouvert à toute la communauté scientifique internationale pour proposer des instruments pour répondre à cet appel d'offres et pour répondre à ces ambitions scientifiques de la mission proposée. Donc en l'occurrence, pour Persévérance, je crois qu'il y a une 60aine d'instruments qui ont été proposés et 7 qui ont été sélectionnés pour répondre donc à cette charge scientifique que Persévérance doit porter.
Autour de la question comment chercher justement des traces de vie passée sur Mars, on continue de persévérer et de nous interroger avec vous, Caroline Frayssinet et Sylvestre Maurice, aux premières loges de Mars 2020, Mars on Earth 2020, chanté par Emily Simon sur RFI. Mars on Earth 2020. On Earth 2020, Émilie Simon sur RFI et sur Mars, où vient d'atterrir le rover Perseverance. Autour de la question pourquoi et comment rechercher des traces de vie passée sur Mars, nous sommes en direct sur Terre avec l'astrochimiste Caroline Fraissinet et avec le planétologue Sylvestre Maurice, en charge de la Supercam embarquée par Perseverance, donc les yeux et les oreilles, on l'a découvert, du rover qui a réussi à se poser sur le cratère de G0. Alors pourquoi et comment précisément là, sur la planète Mars? C'est tout le sens de la question soulevée par Philippe Hénard Réjos du mensuel Ciel et Espace.
Perseverance s'est posée dans un cratère qui est considéré comme un ancien lac et dans lequel on voit les vestiges d'un fleuve et d'un delta. Quelles sont les roches que vous cherchez en premier? Est-ce que ce sont les argiles? Est-ce que ce sont les carbonates ou tout autre type de roches? Et pourquoi?
Caroline Fraissinet, quelle roche recherchez-vous, qui est astrochimiste, exobiologiste?
Alors, donc il y a plusieurs ambitions scientifiques hein, de persévérance, comme on l'a dit, et l'une de ces ambitions, c'est d'aller rechercher d'éventuelles molécules, donc des assemblages constitués de carbone qui seraient des briques du vivant. Sur lesquelles le
vivant... briques élémentaires, les particules élémentaires du
c'est
vivant.
C'est ça, hein. Les briques élémentaires, les briques sur lesquelles le vivant pourrait se reposer pour se créer finalement à partir de la chimie qui devient de plus en plus complexe jusqu'à devenir biologie. Et donc c'est cette chimie primordiale qu'on va aller rechercher. Et certaines roches vont être plus propices à préserver sur des temps géologiques ces fossiles moléculaires. Et parce qu'il faut savoir que sur Mars, aujourd'hui, avec Perseverance notamment, on ne va pas rechercher des traces de vie présente.
Oui, c'est pas ça. Enfin, c'est pas ça le propos. Ou a priori, il n'y en a pas ou...
Alors, c'est plus une question philosophique que scientifique de savoir s'il y a ou s'il y a eu de la vie sur Mars. Mais aujourd'hui, en surface, puisque Perseverance va récolter des échantillons à quelques centimètres de profondeur, donc en surface de Mars. Et aujourd'hui, en surface, on s'attend à ce qu'il n'y ait pas de vie active sur cette surface. On va rechercher des traces de vie d'il y a plusieurs milliards d'années. Donc le cratère, il reste encore à être daté, mais il aurait entre 3 et 4 milliards d'années. Et donc, on va rechercher des traces d'une vie qui aurait pu se développer il y a 3 à 4 milliards d'années sur la planète Mars et qui aurait préservé des molécules, donc des traces chimiques, des fossiles moléculaires jusqu'à aujourd'hui. Donc effectivement, pour préserver des molécules pendant des milliards d'années, il faut certains types de conditions, et notamment les argiles. On sait que les argiles sont constituées en feuillets, et dans ces feuillets, il va y avoir une circulation d'eau qui va augmenter la quantité de molécules qui peuvent s'y trouver, qui va ensuite les emprisonner lorsque l'argile va sécher et va les préserver sur des temps géologiques. Donc les argiles, c'est une cible particulière. Tout comme le sont les sulfates. On sait que les sulfates, ce sont des types de roches qui, sur Terre, vont préserver à long terme des molécules et des traces de vie passées sur Terre.
Et est-ce qu'on sait si ces roches existent sur le sol de Mars?
Ces roches existent sur le sol de Mars, pour sûr.
D'accord.
Dans le cratère G0, on a des analyses d'orbite sur le cratère qui ont fait justement choisir ce cratère. Et d'après les analyses en orbite, on s'attendrait à ce qu'il y ait des argiles en quantité assez abondante dans le cratère G0, qui serait corroboré par la présence d'un ancien lac, puisque les argiles sont formées dans des zones humides sur du terme assez long. Et donc, on s'attend à ce qu'il y ait des argiles. On va vérifier sur place, in situ, et notamment avec Supercam, s'il y a effectivement ces argiles et en quelle quantité et quel type d'argile on va trouver à la surface. Et ensuite, voir si ces argiles ont pu préserver des molécules.
Oui, ensuite, hein, parce qu'on va y revenir, parce qu'il va falloir encore étudier, analyser ces échantillons. Mais pour le moment, on n'en est pas là encore autour de la question pourquoi et comment trouver des traces de vie passées sur Mars. C'est vous, Sylvestre Maurice, qui êtes en charge de l'instrument Supercam, on l'a dit, embarqué par le rover. Et qui va donc nous dire si ces roches existent bien et si Persévérance peut bien les collecter. C'est donc à vous que s'adresse cette deuxième question, soulevée par Philippe Hénard-Réjos, notre confrère du mensuel Ciel et Espace.
Est-ce que l'instrument SuperCam, qui permet de voir des roches et de les étudier à distance, va servir activement au choix d'échantillons qui seront mis dans les boîtes de conserve en vue de les ramener sur Terre ultérieurement par la mission de retour d'échantillons?
Sylvestre Maurice, le bras armé de Persévérance, va mettre tous les échantillons dans des boîtes de conserve, c'est ça?
Pour vous dire, donc SuperCam, son rôle, c'est de collecter, non pas de collecter, pardon, d'assister à la collecte des échantillons.
Ah.
Et en particulier, puisqu'on est en hauteur, de pouvoir dire plutôt aller à droite, plutôt aller à gauche. C'est là qu'il faut aller chercher l'échantillon. Parce que nous, on fait de la statistique. On va faire un très grand nombre de mesures. Donc, on va envoyer le robot avec son bras chercher les échantillons à tel endroit. Ce qu'on va avoir, c'est pas un échantillon. On veut, alors on a 43 possibilités, mais on en va en rapporter probablement une trentaine. On va avoir
vous avez 43 possibilités de rapporter des échantillons, c'est ça que vous dites?
Voilà, 43 éprouvettes. Alors, quelques-unes vont revenir vides pour faire des tests de contamination. Mmh. Mais on va, le but, c'est d'avoir la diversité. Et donc, en cela, SuperCam va aider à dire, tenez, ça, c'est pas la même chose que ça, prenons-en un échantillon. Donc, de la diversité, un grand nombre, le choix quand même de la qualité de ces échantillons, et aussi le contexte. Vous savez, quand un géologue part sur le terrain, et c'est ce qu'est finalement Persévérance, c'est un géologue martien, eh bien, il part, il ramasse des petits cailloux à droite, à gauche, et puis en même temps qu'il ramasse, il prend une photo. Et il documente, il dit, tiens, j'ai pris le caillou, mais à côté, il y avait une veine. Ici, il y avait un petit nodule. Ici, il y avait une strate. Et notre rôle va être aussi de documenter l'environnement géologique de chacun des échantillons qu'on rapporte sur Terre. Donc, la priorité de la mission est bien aux échantillons. Ça, c'est très clair. Mais les SuperCam jouent ce rôle pour les choisir au mieux.
On comprend mieux le choix de ce cratère. Donc, vous avez dit en hauteur l'importance de cette SuperCam qui va justement observer et pouvoir collecter ces échantillons. Parce que il y a 22 mois terrestres de collecte d'échantillons, c'est ça le retour, mission retour est prévue pour 2032, je crois. C'est ça. 22 mois terrestres, ça fait combien de mois martiens, Sylvestre Maurice?
Alors, déjà, on va se donner du temps. On n'est pas super pressé parce qu'on sait que le véhicule de retour devrait se poser autour de 2026.
Sur Mars, le véhicule pour ramener les échantillons.
Ouais, sur Mars, qui va les rapporter. Et donc, il n'est même pas développé. On vient tout juste de le développer. Hein, c'est des missions, on ne peut pas tout faire parallèle.
Bien sûr.
On a dit, on envoie la mission de collecte, la mission qui devra nous dire les échantillons sont prêts et en plus, ça vaut le coup d'aller les chercher. Voilà, on va faire ça. Mm-hmm. On va faire ça. Et donc, on va les préparer doucement. On a à peu près 5-6 ans pour le faire. C'est difficile de prendre un échantillon. Et Caroline l'a vécu lorsqu'on a fait des forages avec Curiosity et l'instrument dont elle s'occupe qui s'appelle SAM. Là, on va faire des carottages un petit peu différents, mais le principe est exactement le même. La robotique planétaire, c'est compliqué. Trouver le bon endroit, se déplacer. Donc, on va en faire un à peu près tous les 3 mois, j'ai l'impression, assez lentement. Mais on n'a pas de raison de se presser tant que la machine va bien, puisque le retour est à l'horizon 2026. Mais on ne reviendra pas avant 2031, 2030, 2031. On a un petit peu de temps, voilà.
On a du temps. Donc, vous dites, 2026 arrivera normalement sur Mars l'appareil qui est en train d'être construit pour pouvoir ramener...
Il décollera en 2026. 2027 à peu près, quelque chose.
Oui, c'est ça. Il faut bien compter un an sur Mars. Il revient en 2030. On parle donc de 22 mois terrestres. Ça fait combien de mois sur Mars? Est-ce qu'on peut compter en mois sur Mars?
Alors, nous, on compte, évidemment, on a un calendrier. Très important, puisque tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait une heure locale, c'est assez facile, avec une planète qui tourne sur elle-même en 24 heures et 40 minutes. C'est très proche de la Terre. Mm-hmm. Et en même temps, ces 40 minutes nous rend la vie pénible, parce que ça suppose de se décaler tous les jours. Alors, on a inventé un nom, vous savez, quand on fait des opérations, on en vient à se perdre, c'est assez amusant. Le jour martien, alors on l'appelle un sol, pas confondre avec un jour. Et donc, alors on est un peu avec un peu d'anglicisme, bien sûr. Alors les gens me disent, mais qu'est-ce qu'on faisait hier? Je dis, hier sur Terre, je faisais ça. Oui, mais hier sur Mars. Alors hier sur Mars, ça s'appelle hier sur sol. Voilà.
Ah, Yestersol.
Voilà. Et demain sur Mars, ça s'appelle Soloro. Et puis même quand on a des vacances, on a le droit à une journée de vacances tous les 37 jours sur Mars.
D'accord.
Quand on recale les calendriers entre Mars et la Terre, ça s'appelle un solidé. Vous voyez, on a été obligé d'inventer des mots pour
des
comprendre
mots
le temps martien.
Mais oui.
Parce que la planète tourne sur elle-même, elle tourne autour du Soleil en 668 sols. Qui font, c'est l'année martienne, ça fait 687 jours terrestres, c'est globalement presque deux ans, on a une planète qui tourne en pratiquement deux ans autour de Mars. Et donc, on va comme ça travailler pendant une année martienne, c'est-à-dire deux ans terrestres, et peut-être une deuxième, une troisième, pour collecter tous ces échantillons.
C'est fabuleux, et d'autant plus, moi, je ne sais pas comment vous faites, parce qu'entre les sols, et, donc les sols martiens et les jours terrestres, vous travaillez en plus avec les Américains, avec la NASA, avec beaucoup de nationalités qui sont dans d'autres fuseaux horaires. Je ne sais pas comment vous vous y retrouvez, mais enfin, apparemment, vous y arrivez. Quelle forme de vie passée recherchez-vous, Caroline Fraissinet? Alors, vous ne le savez pas, évidemment, si vous saviez, vous ne cherchez pas, mais est-ce que vous cherchez des formes de vie identique à un genre de fossile qu'on pourrait imaginer sur Terre ou complètement autre chose?
C'est vrai que c'est une question assez difficile parce que finalement, soit on va rechercher des formes de vie telles qu'on ne les imagine pas sur Terre, mais on n'a aucun moyen d'aller les chercher puisqu'on ne saurait pas ce qu'on va chercher. Soit on va chercher des formes de vie qui vont ressembler, qui sont basées sur les mêmes molécules que les formes de vie terrestres. Mais dans ce cas, on a un biais de recherche qui peut nous faire passer à côté d'une forme de vie complètement exotique. Mais on est obligé d'être un petit peu anthropocentrique et d'aller développer des instruments pour rechercher quelque chose qu'on connaît. Après, c'est quand même justifié. Ce n'est pas uniquement parce que l'instrument il est obligé d'être défini d'une certaine manière. C'est également que les molécules qui auraient abouti à la formation de la vie sur Terre proviendraient de l'espace. Donc, sur les météorites, on sait qu'on a des acides aminés qui sont faits de manière complètement chimique. Ces acides aminés, ce sont les composants de toutes les protéines qui vont se trouver dans tous les systèmes vivants terrestres. Donc, la vie sur Terre s'est développée à partir de molécules qui proviendraient de l'espace. Puisque ces météorites auraient abouti sur Terre en venant de l'espace...
À la formation de la vie, ça pourrait être la même chose sur Mars.
Ces météorites, elles ont ensemencé autant la Terre que Mars, et donc on pourrait s'attendre à trouver le même type de molécules de base, le même type de chimie de base provenant de l'espace sur la planète Mars. Et donc si une vie a pu se développer, elle se serait développée à partir des mêmes formes moléculaires, et donc elles aboutiraient à une forme de vie qui ressemblerait un petit peu à celle de la Terre. Et donc en allant rechercher ces molécules sur Mars, donc finalement quand on va rechercher de la biologie sur Mars, on va rechercher de la chimie.
C'est ça, puisqu'avant la biologie, il y a de la chimie, ça c'est sûr.
Avant la biologie, il y a de la chimie, et la biologie est une forme de chimie. Donc, on va rechercher de la chimie. Si la chimie s'est développée suffisamment loin, elle a pu créer une forme de biologie. Et selon l'angle sous lequel on va regarder les molécules, on peut définir. Donc déjà, si on trouve des molécules, on va pouvoir définir est-ce qu'elles proviennent d'un système chimique ou est-ce qu'elles proviennent d'un système biologique.
Fabuleux champ de recherche qui évidemment passionne nos auditeurs. Vous êtes très nombreux à nous poser des questions sur les réseaux sociaux. On essaye de les prendre dans ma bouche autour de la question pourquoi et comment rechercher des traces de vie passée sur Mars. On continue de s'interroger à l'écoute du groupe électro Le Peuple de l'Herbe sur RFI et de ce morceau dédié à la planète rouge Mars. Dans toutes les têtes en ce moment, ça nous permet d'être un peu moins terre à terre et ça fait pas de mal.
Mars, no, no, no. Red planet.
No, no, no.
Mars.
No, no, no. No, no, no.
Flying me the stars with your 6062. Jumping in your car with your gun with your needed 73. Running in your flying suit in your GF-44. Walking on Mars with your tank with your DD-51. Think on Mars. Mars mission 51. Think on Mars. Mars mission 51. Think on Mars. Mars mission 51.
Planète rouge avec le peuple de l'herbe sur RFI. Autour de la question pourquoi et comment chercher des traces de vie passée sur Mars, nous sommes en compagnie de l'astrochimiste Caroline Fraissinet du CNRS et du planétologue Sylvestre Maurice en charge de Supercam, l'instrument les yeux et les oreilles de Persévérance sur Mars, un instrument conçu et piloté par vous Sylvestre et par les chercheurs français de l'Hexagone qui en conçoivent tous les jours d'autres instruments comme ça, ou presque. Ça me permet de lancer un petit cocorico, car même si ce sont les Américains, la NASA, qui sont les plus forts scientifiquement, économiquement, pour mener à bien de telles missions intersidérales, ce sont, enfin, les instruments embarqués sur Curiosity, comme sur Perseverance, sont souvent français, et c'est précisément sur cette excellence scientifique et technique française que vous interroge une autre excellente astrophysicienne, Nabila Aghanim de l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay, qui elle a découvert la matière noire ordinaire de l'univers. Ah oui, c'est pas mal non plus. On l'écoute.
Dans cette aventure de l'exploration martienne, on voit bien que la communauté française est absolument en pointe aux côtés de la communauté américaine, scientifique. Hein. La NASA est l'acteur par excellence de l'exploration. Bon, faire attention parce que je n'ai pas envie de mettre à mal l'Agence spatiale européenne qui essaye de faire énormément pour cette science. Mais finalement... Bon, et quand même en retrait par rapport à... Bon, ce n'est pas les mêmes budgets, enfin, il ne faut pas comparer l'incomparable, ce n'est vraiment pas les mêmes budgets ni rien. Mais néanmoins, dans cette recherche qui est internationale, qui est quand même l'idée, enfin menée essentiellement par les Américains en collaboration avec des pays français, une des questions que je me pose, c'est finalement, quelle est l'unicité de la communauté française et comment et pourquoi, en fait, enfin, grâce à quoi, quelles sont les compétences qui font le fait que la communauté française est une des communautés qui est le plus en vue sur la problématique de l'exploration spatiale? Qu'est-ce qui fait la force de la communauté? Et qu'est-ce qui doit être entrepris, soit d'un point de vue des recherches, soit d'un point de vue des futurs objectifs ou des futures missions pour garder cette primeur? Sachant qu'il y a de nouveaux acteurs qui interviennent, notamment les acteurs asiatiques, hein, la Chine, l'Inde, maintenant les Émirats arabes unis aussi. Et donc, qu'est-ce qui fait ou fera qu'on peut, en France, garder cette compétence unique et cette compétence qui, aujourd'hui, n'est inégalée qu'aux États-Unis, en fait, d'un point de vue de la reconnaissance de la communauté et ainsi de suite.
Qui veut, qui peut répondre? Sylvestre Maurice, peut-être.
Je peux essayer de tenter une réponse. Alors, Nabila, qui est une collègue, pose une très, très bonne question et elle a raison. Il se trouve que les États-Unis, je dis souvent, jouent en première division et ils sont tout seuls. Et je pense qu'en en deuxième division, on est les premiers. Et on l'a montré d'ailleurs. Un jour, les Chinois ont dit, on va aller sur Mars, on va faire un petit point d'habitude, une étude bibliographique. Vous savez, ces études d'articles scientifiques pour voir où en est la communauté. Et puis, ils ont dit, tiens, étonnant, les Français sont les premiers. Juste après les Américains, les seconds, pardon, quand même. Les seconds derrière les Américains. C'est les Chinois qui l'ont dit, donc on était très fiers. Ouais. Et ça s'est démontré. Parce qu'on a un savoir-faire sur les instruments. On a une école instrumentale, de laboratoires qu'on appelle les laboratoires spatiaux, ce sont les laboratoires du CNRS, des universités, mais qui ont cette dimension, cette compétence pour, depuis des années, faire du spatial. Le spatial, ce sont des savoir-faire. C'est-à-dire, c'est de la méthodologie, de l'organisation pour livrer à temps un instrument qui soit extraordinairement fiable. Donc, on a tout ce savoir-faire qui est devenu une spécialité dans quelques niches. La niche martienne en est une.
Sacrée niche, hein, tout de même.
Oui, sacrée niche, mais grâce au CNES. Mais il faut le dire parce qu'on n'est pas très nombreux. Hein. Mm-hmm. On se compte en dizaines, de temps en temps, centaines, mais c'est au grand maximum quand on met tout le monde. Et donc, c'est une petite communauté. Vous savez qu'en ce moment, on a 8 véhicules en orbite autour de Mars. On a 3 véhicules maintenant en fonctionnement à la surface, donc on est, si je ne me trompe pas bien, 11 véhicules. On attend le 12e des nos amis les Chinois, un rover sur lequel d'ailleurs on est engagé. Et la France est présente sur pratiquement tous ces véhicules, soit en fournissant des instruments, soit en faisant de l'analyse scientifique. C'est le premier partenaire international, en quelque sorte, sur Mars. Avec, alors, on ne joue pas dans la cour des Américains, mais on fait des choses très bien. La preuve, c'est que, et Caroline l'a dit tout à l'heure, lorsqu'ils font un véhicule et ils font un appel d'offres pour chercher les meilleurs instruments, eh bien, sur Curiosity, par deux fois, ils font appel aux Français. Sur InSight, ils vont chercher le sismomètre piloté par les Français. Sur Perseverance, un instrument franco-américain très ambitieux. Donc, on a cet exemple. Alors, comment la garder ?
Eh oui,
là, la question est bonne. Voilà, parce qu'on est fiers de ce qu'on a fait, mais malheureusement, on n'en fait pas beaucoup. Voilà, dans une carrière, on en fait deux, peut-être trois.
Et oui, parce que ça prend du temps entre la conception, l'élaboration et l'usage vraiment de cet instrument.
Voilà, ces deux instruments, ChemCam, SuperCam, et puis un autre qui, j'espère, viendra pour ExoMars bientôt pour moi, c'est 20 ans de travail. Donc, et donc, c'est très long. Et donc, la question que pose Nabila derrière, c'est sur la durée, comment faire vivre ces savoir-faire, sachant que les personnes vont passer, et ça, c'est le cycle de la vie, hein. Les mentors vont disparaître. Et pour ça, on a une stratégie en particulier de renouvellement. On a un chercheur établi. C'est sa carrière, mais il doit penser aux autres. Et ça fonctionne bien en France. On a des jeunes en thèse qui seront en postdoc, qu'on va recruter. Et Caroline, qui est une génération derrière moi, et cet exemple de jeunes chercheurs qui, voilà, ça y est, elle a pris son essor, hein, Caroline, et elle construit ses propres instruments maintenant. Donc, la relève est assurée.
C'est ça, heureusement. Oui, la relève est assurée grâce à vous, Caroline Fraissinet. Parce que, non, mais c'est vrai, entre autres, parce que vous construisez vos propres instruments pour des missions à venir dont on ne sait même pas si elles vont déjà se dérouler. C'est ça. Il faut voir que c'est dans des échelles de temps insensées quand même.
C'est ça, on est dans des échelles de temps extrêmement longues. Alors, c'est jamais une personne. C'est toujours des équipes dizaines, de centaines de personnes qui comprend des ingénieurs, des scientifiques, des techniciens et tous les corps de métier qu'on va retrouver dans un labo de recherche et dans les industries pour pouvoir fabriquer ce genre d'instrument. Et donc, quand on parlait d'appel d'offres sur des missions et de répondre avec des instruments, il ne faut pas répondre juste en disant bah voilà, moi je voudrais faire ça, je propose un instrument. C'est des justifications de centaines de pages pour pouvoir dire voilà ce que je propose, voilà pourquoi ça va marcher et j'en suis sûre, et voilà pourquoi il faut me sélectionner. Donc, pour pouvoir répondre en un temps relativement court, à l'échelle de quelques mois, un appel d'offres comme ça, il faut préparer les instruments en amont, avant même que l'appel d'offres soit sorti, en sachant que peut-être il ne sortira jamais.
Donc, vous réfléchissez déjà. Par exemple, je crois que vous travaillez sur Titan.
Oui.
Donc, que préparez-vous pour Titan, chère Caroline Fraissinet ?
Pour Titan, heureusement, il y a une mission qui a été sélectionnée, qui s'appelle Dragonfly. Et c'est une mission à moyen budget de la NASA, c'est-à-dire $1 milliard. Et donc, cette mission, comme on parlait des échelles de temps, elle partira en 2026 pour atterrir sur Titan entre 2034 et 2037, selon le type de lanceur. Donc, on voit vraiment une échelle de temps longue. Mmh. Et c'est vrai que finalement, les personnes qui s'occuperont d'opérer cet instrument une fois sur Titan...
Un genre de drone sur Titan.
C'est ça. Ça sera un drone qui va se déplacer en mode aérien sur Titan en faisant des vols de plusieurs kilomètres kilomètres entre chaque site d'échantillonnage pour rechercher la chimie organique sur Titan. Donc cette chimie, on sait qu'elle est très intense sur Titan. Il y a beaucoup d'azote, beaucoup de carbone. On sait qu'il y a plein de choses qui se forment. Et on voudrait comprendre jusqu'à quel niveau de complexité la chimie s'est développée à la surface de Titan. Est-ce qu'il y a pu avoir une forme de vie qui s'est développée vu que la chimie est extrêmement complexe.
Et donc, vous développez en ce moment un drone pour aller sur Titan dans les 10 ans qui viennent.
Voilà. Alors, le drone, c'est l'instrument, c'est la mission NASA. Et dans ce drone, il y a 4 instruments. Et un des instruments a une contribution française. Il s'appelle DRAMS. C'est le spectromètre de masse de Dragonfly. Dragonfly, qui veut dire libellule en anglais, c'est le nom du drone. Et DRAMS, c'est le nom de l'instrument sur lequel la France participe pour pouvoir aller rechercher de la chimie complexe et des traces de vie à la surface de Titan.
Eh bien, on n'a pas fini, j'espère, de vous recevoir, Caroline Frayssinet. Sylvestre Maurice, pour conclure, qu'attendez-vous là dans les heures, dans les jours qui viennent, enfin dans les jours terrestres, dans les sols martiens? Qu'attendez-vous? Qu'espérez-vous encore?
Toutes les échelles de temps. Déjà, pour vous, vos éditeurs, la première échelle de temps, c'est ce soir. Une très belle conférence de presse de la NASA à 20h, centrale européenne, c'est-à-dire
20h temps universel. Ah, 20h de Paris.
Non, 20h de Paris. Mm-hmm. Et voilà, ça c'est la première chose qu'on attend, parce qu'on a envie de partager. Vous allez voir des images très spectaculaires de la descente sur Mars. Mm. Ensuite, nous, on repart cette nuit en opération, et voilà, on va encore avoir une longue nuit pour lancer des commandes et lentement réveiller tous les systèmes les uns après les autres. Et ça prend du temps. On s'est donné 3 mois pour le faire. La voiture est tellement compliquée.
C'est ça, tous les instruments de persévérance.
Voilà, exactement. C'est la voiture la plus compliquée jamais faite par la NASA. Ils l'ont dit. Et donc, on va prendre du temps. Et puis, en même temps qu'on réveille, on va faire nos premières mesures. Souvent, on me demande ce qu'on espère. Ce que j'ai appris avec les années, voilà, c'est que la Mars a plus d'imagination que nous. Donc, je vais rester ouvert à toute proposition de Mars, à tout émerveillement, certainement.
Voilà. Mars a plus d'imagination que nous. Merci pour cette magnifique conclusion, Sylvestre Maurice. À très vite pour nous reparler de Mars, justement. À très vite, Caroline Frayssinet, pour nous parler peut-être de Titan ou de la vie sur Mars. Merci à Hugo Violas, de l'autre côté de la vide, pour la réalisation. Caroline Fillette en coulisses. Caroline Leschowski au micro. Nous vous donnons rendez-vous demain, chers amis auditeurs. À l'Esprit Curieux, merci pour votre interactivité. On n'a pas pu répondre à toutes vos questions, mais on a essayé pourtant. Allez, à demain, restez curieux, surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles sur Mars comme sur Terre, le journal, dans une minute.